1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann avec vous pour l'émission Le Grand Tout. Vous écoutez Canal B, restez-y, on est ensemble pendant 1h, 17h, 18h, comme tous les jours, du lundi au vendredi. Une émission avec quelques nouveautés musicales, une page info culture et puis une page info concert tout à l'heure où je vous parlerai d'événements qui se passent à l'Antipode ce jeudi 26 mars. Le festival Rage Sacré, une étape rennaise avec Duorut, Milkweed et Pedal Dash. Ça va être très 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 étonnant ce qui est proposé entre rituels, folklore et avant-garde. Un festival entre Paris, Rennes et Lorient en partenariat avec Petit Bain. Et puis j'évoquerai un événement qui vous est proposé par Open Swing ce week-end, 27 et 28 mars. Le festival Let's Swing to Spring avec un spectacle de danse à la Maison des Associations, au 360. Et puis à la Salle de la Cité, un concert de Stomp Stomp, concert swing samedi soir. Avant ça, on parlera tout à l'heure avec Hugo Titem de Lavaux, qui sera présent lui aussi, tout comme notre invité d'hier, Salima Atala Chetaoui, à la MJC Grand Cordel jeudi soir pour une lecture rencontre. Lui revient sur ce qui s'est passé le 27 juin 2023 à Nanterre. Naël Merzouk, 17 ans, était au volant d'une voiture de location. Il a été abattu à bout portant par un motard de police après un refus d'obtempérer. Ça donne un texte qui questionne l'impact de cette mort sur l'auteur, sur ses proches et sur la société. On commence en tout cas l'émission avec notre disque d'or de la semaine, le très bon disque Charge of the Love Brigade pour les Américains de Escapism. Ils jouaient hier soir, lundi, du côté du Tiana Place Sainte-Anne, grâce à Crème Brûlée Records, pour un concert assez explosif et pourtant... parfois assez calme sur l'album, en tout cas avec des rencontres entre la voix de Jan Svenonius, ancien leader des Make-up, de Chain and the Gang ou encore de Weird War, et puis sa compagne qui est là présente pour jouer des boîtes à rythme un peu squelettiques, quelques synthés par-ci par-là. On écoute pour débuter l'émission un extrait de cet album qui est paru l'année dernière aux États-Unis, hein, sur Radical Elite, mais qui est sorti il y a quelques semaines sur le label français Monotone Records. On commence donc avec ce titre qui donne son nom à l'album, Charge of the Love Brigade. Bonne émission.
All right. 1, 2, 3, 4. They got a kiss, you can't resist. It's a charge.
Charge
of the Love Brigade. They got arms, they got charms, they got head, they got a bed. It's a charge.
Charge
of the Love Brigade. Ooh, yeah.
Charge
of the Love Brigade.
listeners or knock out the gates. We've played that game before. And I don't want to be a dog, but I'm yours if you want me. 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 Do you want me now?
Gallois de The Bug Club, j'adore découvrir à chaque fois de nouveaux titres pour ce groupe qui sort un nouvel album, le cinquième déjà, Every Single Muscle. Il sortira le 29 mai prochain sur le label Sub Pop. Toujours des petites bombinettes pop punk, un peu garage aussi, avec des riffs imparables, des solos très courts, voire très 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 courts. Il arrive parfois que certains ne durent que 2 secondes. C'est bien suffisant. On écoutait à l'instant le titre Yours If You Want Me, un des nouveaux singles. Il sort ce mercredi 25 mars. À suivre la page culture du Grand Tout. Dans la page culture de l'émission Le Grand Tout que vous écoutez en ce moment sur Canal B, on va parler d'un texte qui prend la violence du réel à bras-le-corps. Un texte né après la mort de Naël Merzouk en 2023. Un texte qui interroge sur ce que ça fait à un corps, à une langue et puis à une génération aussi. Entre poésie, récit, écrit, une écriture qui devient un espace de résistance. Qu'est-ce qu'on fait de la colère, de la honte, de la peur? Et surtout, comment on ne se tait pas, quoi, évidemment. Alors, pour en parler, on va discuter avec Hugo Titem de Lavaux. Bonjour, Hugo.
Bonjour.
Qui est comédien, dramaturge, poète et slameur. Ça fait beaucoup, beaucoup de casquettes. Là, tu n'en portes qu'une aujourd'hui, mais tu en as plusieurs. Tu vas être en lecture-rencontre jeudi soir au Grand Cordel à Rennes. C'est dans le cadre du festival du cycle Écrire et Dire, numéro 2. On va donc se balader dans ce texte qui n'est pas signé de ton nom, Hugo Titem de Lavaux. Pourquoi ce choix de pseudo ?
C'est vrai que moi je viens du théâtre à la base, donc j'ai fait des études de comédien et après une école d'écriture de théâtre. Et à la fin de mon école, j'ai commencé à écrire autre chose que du théâtre, un peu plus à aller vers le récit, la poésie. Et j'avais envie d'avoir un autre nom, notamment pour des publications en revue, qui est en fait le nom de ma grand-mère. Et du coup ça me semblait assez... assez beau et juste d'avoir ce nom-là pour ses écrits poétiques.
Alors il y a des dates comme ça, on se rappelle forcément ce qu'on faisait, où on était, avec qui on était. Est-ce que c'est le cas pour toi lors de la mort de Naël ?
Bah oui, carrément, et le texte commence... le texte commence au 1 an de la mort, mais il y a comme un retour en arrière du présent de la mort, où j'étais effectivement à Saint-Étienne, avec mon meilleur pote, et c'est un truc qui nous a traversé, qui nous a marqué. J'ai des images très précises du chemin qu'on a fait, et le texte au début suit ce mouvement-là. Les discussions qu'on a eues aussi, et comment on découvrait en direct un peu tout ce qui se passait, les images qui sortaient. Lui, il voulait les voir, il les a regardées, moi j'avais pas du tout envie. Enfin, oui, c'est un souvenir très précis, parce que très dramatique.
Ça t'est paru être une urgence, comme ça, une nécessité de d'écrire sur ce fait-là, sur cette mort-là ?
Bah, je l'ai écrit un an après, c'était pour un appel à texte d'une revue où le thème c'était soulèvement, et c'était pile poil les un an, et donc à ce moment-là, oui, ça m'a semblé assez évident, parce que j'avais besoin de savoir et d'écrire sur ce qui restait de ça un an plus tard, et en fait est revenu aussi le souvenir de ces hordes de jeunes, et puis toute la... Tout ce qu'on en fait les médias aussi, et puis en fait le thème soulèvement, oui, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça tout de suite, et j'avais envie de creuser ça.
Alors ton texte demande, hein, comme ça, qu'est-ce qu'on fait de la colère, en fait. Toi aujourd'hui, ce que tu en fais, c'est la dire.
Justement, c'est aussi ça, c'est hors de là, je me suis dit, bon, mais on leur fait mauvaise presse, et à des endroits, à juste titre aussi, il y a eu des trucs qui sont allés trop loin, qui étaient pas logiques, mais en même temps, je sais pas si on peut retenir ça sur le pourquoi de la colère, et justement, j'ai senti comme un espèce de fossé entre eux et moi, en me disant, moi, j'y serais jamais allé dans ces rues-là. Après, c'était des gens plus jeunes aussi à ce moment-là, mais, et je me suis dit pourquoi, et j'avais envie de les soutenir, mais c'est vrai qu'il y avait comme un blocage pour moi. Enfin, c'était pas mon endroit, quoi. Et parce que j'ai l'impression que la colère, moi, on m'a appris à justement plutôt l'enterrer, la cacher, pour faire bonne figure, pour être bien intégré aussi, même si c'est plus mon père que moi, voilà. Mais et je pense que c'est mon chemin. Et de jeune homme aussi, là j'ai bientôt 30 ans, voilà, j'ai fait un peu mon chemin politique et mon chemin d'artiste et d'auteur, et c'est vrai que je crois que j'écris avec ce qu'il y a de vrai en moi, j'essaie d'être juste à cet endroit-là et vrai, quoi, et donc j'ai l'impression que l'écriture est devenue le terreau pour moi de chercher à quoi faire de ma colère, à essayer de comprendre pourquoi, ce qui se joue. Et face à ça, c'est aussi que très concrètement, j'avais ça, quoi, face à moi, où je pouvais écrire, je pouvais en faire un truc, je pouvais faire en sorte que ce soit quelque part et que j'oublie pas, surtout. Je crois que j'avais cette peur-là aussi. Et donc, oui, je dirais quand même que l'écriture, moi, me cherche à me faire trouver comment m'emparer de ma colère aussi.
L'écriture de Hugo Tithème de Lavaux, c'est pas celle de Guillaume Musso, c'est pas celle de Philippe Delerme, non, non. Elle dit plus. Je suis désolé, hein, messieurs Musso et Delerme. Là, tu la vois comme une désobéissance civile, carrément. C'est très fort comme terme.
Oui, oui, c'est fort, c'est fort. Après, voilà, je pense que c'est mon texte qui est peut-être le plus abouti sur ça, enfin, en tout cas, qui va le plus assumer cette chose-là. Même si, évidemment, je crois pas au fait que l'écriture peut renverser un gouvernement, et il faut être juste avec ça. C'est évidemment pas ça l'idée. Je crois pas que l'écriture soit militante, par exemple. Enfin, voilà. Mais ça peut être une force, quand même, qu'on utilise justement pour pousser les gens, pour se pousser, hein. Enfin, le texte, c'est ça qu'il dit aussi, c'est comment j'arrive à me pousser moi-même pour avoir le courage de me battre et de continuer à me battre. Donc oui, l'écriture comme une désobéissance civile, c'est comme un appel, mais un appel pour moi aussi, quoi. Enfin, c'est parce qu'en fait, l'art n'est pas militant, enfin, pour en reparler, mais c'est un truc auquel je crois, et je pense qu'il faut faire attention, pas se dire qu'on va changer le monde avec l'écriture, en tout cas. C'est aussi un terrain où il faut qu'on aille, il faut que les nouvelles générations aillent, que les gens avec des histoires liées à la colonisation, liées à l'immigration, qui font la France, et c'est important quand même de le dire, en fait ça n'existe pas tant que ça, de plus en plus, un petit peu, mais pas tant que ça, et c'est aussi un terrain dont il faut s'emparer, mais avec évidemment beaucoup de modestie, hein, voilà, enfin... Moi, je crois qu'à chaque fois, je me dis, tiens, j'ai l'impression de jamais trouver ma grand-mère dans la littérature, par exemple. Et c'est aussi pour ça, c'est où est ma grand-mère, où est mon père, où est Naël, où sont les morts, et tout ça. Enfin, et la littérature ne doit pas être à chaque fois incisive comme ça, mais il faut qu'elle existe. j'ai pas écrit ce texte en me disant je vais être porteur d'une parole qui n'existe pas. C'est pas ça, mais c'est que voilà, c'est important que ça existe vraiment et que qu'on s'empare de la littérature aussi pour nos luttes, pour ces combats-là, quoi.
Alors c'est pas juste un récit de ce qui s'est passé factuellement, évidemment. Il y a ça, mais il y a aussi cette part de poésie. Hein, c'est de la littérature véritablement, et tu vas trouver des formules aussi très imagées. Ces langues de silence, ces langues du feu aussi. Et puis il y en a d'autres encore. C'est quoi ces langues-là finalement? C'est ceux qui préfèrent ne pas en parler, dire ça se passera comme ça, et puis voilà. Et puis il y a celles qui veulent un peu plus que ça sache. Toi, peut-être d'ailleurs.
Ben, moi je dirais que ça parle de trois langues à peu près dans le texte. Il y a la langue de l'eau, la langue du feu, la langue de la terre. La langue de la terre, j'y reviens plutôt à la fin du texte, et c'est le kabyle en fait, enfin voilà, qui est une langue évidemment faite d'huile d'olive et de, enfin voilà, donc la terre. Il y a la langue de l'eau, qui est la langue dans le texte que mon père me transmet en fait, qui est donc une langue très douce, très calme, avec évidemment l'image de pas faire de vagues, enfin voilà, d'essayer de rester calme, droit dans ses basques et pas faire de vagues pour pas se faire trop remarquer et avoir trop de problèmes. Et après il y a la langue du feu, qui est plutôt celle qu'amène mon meilleur pote, et il y a toute une partie sur le rap aussi dans le texte, et le rap est aussi un peu la langue du feu. C'est oui, c'est une langue justement qui va plutôt s'opposer à la langue de l'eau et justement être en mode non, on va pas rien dire, on va pas se taire, on va pas se laisser faire, on va pas tout laisser couler tout le temps, quoi. Et je pense que j'arrive petit à petit et j'apprends petit à petit à parler la langue du feu, quoi. Et en tout cas, c'est mon terrain de recherche, et ce texte, c'est aussi ça. Je pense qu'il y a un mélange de toutes ces langues-là, mais donc c'est des images, oui, mais c'est des images qui sont quand même très concrètes, que j'essaye à chaque fois de partager, quoi.
Tu parlais du rap à l'instant, on va justement faire une pause avec du rap d'aujourd'hui, véritablement, une première sélection, même si elle est loin peut-être de ce à quoi j'ai pu penser en lisant ce texte-là. Moi j'étais plutôt en train de penser à deux albums de 1995 et 1998 pour Supreme NTM. Le premier c'est Paris sous les bombes, qu'est-ce qu'on attend? Et puis le deuxième c'est Supreme NTM, laisse pas traîner ton fils. Bon, tu cites d'ailleurs cette phrase-là carrément, mais on reviendra peut-être à du rap plus old school tout à l'heure, mais là on va écouter vraiment ce qui se dit aujourd'hui, ce qui s'écrit aujourd'hui. Et j'étais vraiment frappé par le côté très précis et en même temps très imagé, très personnel de Assinine, qu'on va écouter maintenant. Que du vent, tu nous en parles un tout petit peu?
Ben, c'est une artiste que j'ai découvert il y a quelques années et que j'adore vraiment, qui n'est pas encore très très connue, mais ça commence et vraiment elle le mérite. Et j'ai choisi ça parce que, oui, donc ça parle un peu de rap dans le texte, on en parlait tout ça. Donc j'avais quand même envie de partager ça, parce que le rap c'est aussi un art que j'ai appris à aimer. Et puis en fait, c'est ce que tu disais, il y a quand même une énorme sensibilité dans son travail qui moi me touche énormément et dans lequel je me reconnais aussi. Donc c'est très à vif et c'est ça qui me plaît.
Alors pas encore très connu, mais ça va monter pour Assinine, oui. Merci en tout cas Hugo de nous la faire entendre.
Qui peut se tapir dans le noir. Si j'ai rien à t'offrir, que que je me sens comme un pire. Moi et mes instincts fuir.
Sinine à l'instant avec Que du vent, choisi pour vous, pour nous par Hugo Titem de Lavaux, notre invité aujourd'hui. Vous le retrouvez jeudi soir, il sera en lecture rencontre avec aussi Selima Atala Chetaoui, c'était notre invité dans l'émission de lundi. Tous deux auraient une partie distincte, et puis il y aura une discussion ensuite entre vous et puis le public qui sera présent forcément. C'est dans le cadre de Écrire et Dire, porté pour la deuxième édition par la MJC du Grand Cordel. On continue à discuter autour de ce texte dont tu diras une partie. C'est un texte qui a une soixante-dizaine de pages environ, avec une graphie là aussi qui mérite d'être vue. Je pense que c'est publié déjà ou pas?
C'est pas publié encore, j'espère bientôt. Mais oui, c'est un texte qui est en plusieurs parties. Et justement, bon, il y a des parties qui sont plutôt du récit, d'autres parties sont plutôt de la poésie. Et il y a des parties qui mêlent un peu les deux. Et donc il y a, je crois, 5 parties comme ça. Et puis ça suit en fait presque chronologiquement cette histoire. Donc ça commence par les 1 an de la mort, puis après on arrive aux 2 ans de la mort. Au milieu de tout ça, à chaque fois, il y a un peu des parties sur ma famille, sur aussi l'écho que ça a fait chez moi en fait. Et l'idée, c'était pas du tout de se servir de cette tragédie pour parler de moi, mais justement, enfin, on en parlait tout à l'heure, comment cette mort a vraiment fait réagir quelque chose chez moi. Et qui m'a fait poser des questions évidemment personnelles, quoi. Mais c'est plus, je dirais, c'est pas une enquête non plus, mais il y a peut-être quelque chose presque comme ça. Et puis, c'est comment on va chercher des traces de tout ça et comment ça reste dans le temps. Et voilà. Et puis, bon, bah, les parties aussi, c'était aussi pour avoir des moments où on souffle un peu, parce qu'il y a quand même des parties qui sont un peu intenses, même pour moi, hein, même dans l'écriture, c'était des moments où j'étais en mode ok, là, faut souffler. Voilà, j'ai essayé de penser cette chose comme ça, quoi.
On retrouve dans ce texte-là des termes peut-être qu'on ne connaît pas toutes et tous. Moi, j'ai notamment noté ce white passing. Tu dis que ça t'a sauvé la vie. Le personnage dit que ça lui a sauvé la vie parce qu'il peut passer pour un blanc. Voilà, c'est ça que ça va dire. On peut le traduire comme ça. Et lui, il pourrait voir ça aussi comme une usurpation d'identité, finalement, et puis aussi une interrogation sur qui il est véritablement. À quel prix on a sa vie sauvée par ce que tu appelles le white passing?
Ben, c'était important d'en parler justement, parce que c'est aussi pour ça que le texte va faire écho chez moi, et que donc je me permets de raconter un peu mon histoire familiale, tout ça. Parce que justement, je pense que c'est un creux entre des vies comme celle de Naël et la mienne. Et sauf que bah, c'est aussi pour des gens comme moi qu'il faut justement qu'on lutte aussi, parce qu'on est peut-être un endroit un peu moins en danger. Le white passing, c'est vraiment, oui, littéralement, hein, c'est passer pour un blanc. Et quand je dis que ça m'a sauvé la vie, c'est parce que bah, nécessairement ça amène certains privilèges par rapport à, et même le début du texte c'est ça, par rapport à mon meilleur pote qui lui est métis. Bah, on a globalement eu les mêmes trajectoires, mais pas tout à fait quand même.
Pour l'un, énormément d'amour, pour l'autre, énormément d'amour et le racisme.
Ouais, bah oui, oui. Moi, ma mère est blanche, elle vient de Charente-Maritime, enfin, et ça aide, enfin, ça m'a aidé à justement passer pour un blanc. Donc, moins être emmerdé par la police, moins être chahuté, moins être frontalement confronté au racisme, en fait. Donc sur ça, ça protège évidemment. Mais après, c'est vrai que, et je pense qu'il y a toute une génération de gens comme ça, et c'est logique, je veux dire, avec l'histoire de la France, forcément, ça, on arrive à une génération de ce que j'appelle de sans-mêlée, mais pour faire référence à Harry Potter, quoi, mais c'est vrai. Enfin, c'est... Et je pense que se posent des questions de légitimité, comment parler de tout ça, comment participer à la lutte antiraciste, parce qu'on est genre pas vraiment blanc, donc on sent pas avec les blancs, et en même temps pas tout à fait complètement. Et donc en fait on est comme ça un peu au milieu de nulle part, et c'est vrai quand même, on peut le dire, c'est difficile parfois de trouver sa place. Après, l'idée c'est évidemment de pas chouiner, et maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? On écrit, on dit que ça existe, on fait groupe et on se mêle aux autres, en fait. Mais ça n'empêche quand même qu'on peut être victime de violences, et elles sont aussi plus sournoises, je pense. Moi, par exemple, ça a été très compliqué avec mon grand-père du côté de ma mère, donc. Et donc, c'est voilà, peut-être un racisme qui est beaucoup plus sournois, qui est un serpent, quoi, et qui fait quand même du mal aussi.
Ce white passing, en fait, c'est à la fois une protection, mais aussi ça peut être vu comme une trahison par d'autres.
Bah oui, c'est ça. C'est, sauf que, bon, on ne choisit pas, mais oui, oui. Y a des gens pour qui, du coup, c'est être un traître. Enfin, je dis ça, le mot est un peu fort, mais ouais, on n'est pas assez blanc et trop blanc.
La mort de Naël Merzouk en 2023 a été aussi un moment qui a vu une explosion aussi à Nanterre, autour de là où il est mort, en fait. Une injustice, évidemment, une colère tout à fait évidente et compréhensible. Aujourd'hui, on a vu le jugement définitif passer, finalement, où il n'y a plus... c'est pas un homicide, c'est pas un meurtre non plus, non, c'est vraiment... c'est quoi, précisément? Comment ça a été jugé récemment, là?
C'est quand même un peu surprenant, ça vient de tomber, alors que, voilà, c'était presque une victoire, il était censé être jugé pour meurtre, etc., et finalement, non, et il est jugé pour violence volontaire, donc, voilà, moi, j'ai pas fait de droit, donc je saurais pas développer plus, mais, du coup, c'est nécessairement moins grave que homicide volontaire, que meurtre, et donc, il risque beaucoup moins de choses. Et puis, quand même, rappelons aussi que ce flic est présentement au Pays Basque pour un poste de bureau. Alors, il n'a plus le droit de porter une arme, mais il est toujours en activité. Et c'est lui qui a choisi l'endroit où il allait. Enfin, c'est une énorme injustice. Enfin, et on peut quand même vraiment saluer le travail et le combat de la mère de Naël et de tous les autres collectifs de personnes tuées par la police, mais qui font un travail énorme. Enfin, c'est... Je dis travail, mais c'est vraiment un combat, et qui se battent jour après jour, et faut quand même saluer ça.
Alors, il y a eu des manifestations samedi, il y a 3 jours, pour un peu se dire et montrer que c'était pas juste, véritablement. Est-ce que 3 ans après, ce qui est plus qu'un drame finalement, moi c'est un meurtre véritablement, on en est au même point finalement, et on en est au même point qu'en 1998, quand NTM disait « laisse pas traiter ton fils ». Je peux revenir loin encore en arrière, je vais pas revenir sur Sétif, sur encore, mais...
Oui. Ça dépend, est-ce qu'on se fait une réponse pessimiste ou optimiste, quoi, mais si on se fait une réponse pessimiste, oui, ça avance pas, et on pourrait presque dire que ça recule, là, c'était jugé pour meurtre, puis on recule, en fait non, enfin, ça s'inscrit de toute façon dans des politiques, dans des choix de gouvernement qui vont pas du tout dans le sens d'une politique antiraciste et de protéger tout le monde de la même manière, c'est ça en fait, enfin... après, si on essaie d'être optimiste, on perd des gens. Enfin, il y a des gens qui se font tuer, oui. Et ça, c'est terrible. Mais voilà, il y a des collectifs qui se montent. Il y a de plus en plus de gens qui se soulèvent, je crois, j'espère. J'ai envie d'avoir cet espoir-là. Et donc, on va peut-être finir par réussir à changer un peu des choses, ou en tout cas à faire avancer ces questions-là de meurtre par la police.
Tu l'as dit tout à l'heure, tu n'es pas dupe et tu sais que la poésie ne peut pas répondre à la violence coup pour coup, parce que c'est pas le but du tout de la poésie, évidemment. Mais tout de même, est-ce que l'œuvre que tu fais en prenant cet événement dramatique, en y injectant une part d'autobiographie et puis en le traînant du côté plutôt poétique, ça fait avancer quand même vers un mieux vivre ensemble. Peut-être pas, je sais pas, j'irai pas jusque là parce que je veux pas faire le naïf non plus, mais vers où ça peut nous emmener quand même?
Bah oui, j'espère que ça nous emmènera vers un mieux vivre ensemble. Enfin, je pense que sinon j'écrirai pas. Enfin, c'est ce que je disais, c'est aussi faire exister tout ça dans ces terrains-là, dans ces milieux-là, de la littérature, du théâtre, de la scène qui reste aussi plutôt pour la bourgeoisie. Et donc à la fois j'ai envie aussi de m'adresser à ces gens-là et leur dire venez ensemble, on repense à ça, on n'oublie pas, on se pose des questions sur est-ce que vraiment ces jeunes ils ont eu tort de sortir, de tout casser, est-ce que... Moi j'aime bien voir le théâtre et toute littérature vraiment aussi comme des endroits où on se pose des questions. C'est parce que sinon je sais pas, moi je suis ni historien ni donc je suis là pour poser des questions de moi à moi. Donc oui, j'espère que ça refait exister ça et on va réfléchir tous ensemble et on avance comme ça. C'est des petites pierres sur le chemin, mais de toute façon, vaut mieux essayer de mettre des petites pierres sur le chemin en attendant que plein de choses se passent. Et puis aussi, c'est même pour moi. Enfin, déjà, en fait, c'est je sais que c'est un texte qui a parlé à d'autres gens, donc je me dis qu'il touche juste à un endroit. Et si ça touche quelques personnes et que ces personnes, comme moi, en fait, vont se dire, peut-être qu'il faut un peu aller lutter là, peut-être qu'il faut un peu plus faire de choses. Et petit à petit, on est de plus en plus nombreux et nombreuses à lutter.
Je vais terminer avec cette question que tu poses. À partir de combien de morts on prend la rue? Est-ce que tu as une réponse? Est-ce que tu as eu une réponse à cette question-là ou tu la laisses ouverte comme ça? Et si tu as eu une réponse, est-ce qu'elle a changé cette réponse-là?
Oui, c'est le texte qui commence comme ça et qui dit à partir de combien de cousins morts tu vas prendre la rue. Ouais, et moi, je pense que c'est une image. Encore une fois, Naël n'était pas mon cousin, mais ça aurait pu. Et le texte dit ça aussi. Et moi, je pense que il s'est passé quelque chose pour moi à partir de la mort de Naël. Et je sais pas si j'ai pris la rue, mais c'est sûr que je m'engage plus et je suis plus alerte à toutes ces questions-là. Et après, je pense qu'à chacune de répondre à cette question pour soi-même, quoi. Mais en fait, c'est aussi ça qu'il faut dire. C'est, en fait, au bout d'un moment, si on fait rien, ça finira par être quelqu'un de proche de nous qui va disparaître. Enfin, et donc, est-ce que c'est à ce moment-là qu'il faudra réagir ou est-ce qu'il sera pas un peu trop tard? Moi, je me dis, c'est peut-être ça aussi. C'est... pas attendre, quoi.
Vous allez pouvoir continuer à discuter peut-être avec Hugo jeudi soir, puisque Hugo Titem de Lavaux sera présent à la MJC du Grand Cordel avec aussi Selima Atala chez Taoui pour parler, pour dire ce texte, une partie du texte seulement, oui. Et pas celle du début. On a plutôt parlé du début, mais tu parleras plutôt de la fin. Et puis aussi pour échanger avec vous, on a entendu Asinine tout à l'heure, j'ai évoqué NTM, mais c'est avec MC Solar qu'on va terminer. Est-ce que tu nous parles un petit peu de ce souvenir? Un morceau des petits solars.
Et en fait, pour la lecture de jeudi, j'ai cherché un peu des musiques à mettre et je suis tombé sur une playlist qui s'appelle Violence policière sur les plateformes. Et donc, j'ai découvert plein de sons, notamment celui-là de MC Solar. MC Solar, moi, j'ai pas tout écouté de lui, c'est pas non plus trop une référence pour moi, mais j'avoue qu'elle est très touchante, cette musique. D'abord parce qu'elle est très douce. Et c'est important la douceur, pour finir là-dessus quand même. Et je crois que ce texte aussi, ça qu'il tente de dire, c'est que malgré tout ce qui se passe, il faut mettre de la douceur dans nos vies, quoi. Et puis, en fait, c'est une musique de MC Solar qui parle vraiment de contrôle de police qui tourne mal, quoi, et qui lui est arrivé à lui.
Merci Hugo d'être venu nous parler de ce texte que je trouve vraiment fort et nécessaire. Donc, allez le retrouver, le texte et Hugo et Selima jeudi pour continuer à faire circuler ces mots, la colère, et puis aussi peut-être entamer une forme de résistance commune, on dira. Merci.
Carrément, merci beaucoup.
Dans un monde de brutes, j'ai rêvé de caresses et j'ai reçu des uppercuts. Soyons clairs et nets, la police nationale, au lieu de préserver la paix sur moi, a bâclé son travail. Je quittais le concert d'A.S. Dragon et nous
nous allions. Avec ma miss, l'équipe parlait de mix et de son. Bref, la soirée fut bonne. Mais dans ma rue, un contrôle de routine quelque peu farfelu. J'ai peut-être une trop belle voiture, parce que quand je suis sorti, ils ont pensé elle est volée, c'est sûr. Sans même demander l'assurance ou les papiers du véhicule, ils m'ont crié dégage, me noter ridicule. Un fonctionnaire a tenté de me balayer, puis seul, il est tombé, énervé, peut-être humilié. J'ai vu la fourgonnette, le poste, la garde a vu la plainte de la police. Des procès-verbaux factices, genre j'avais pas de phare, voyons, pas de clignotant. Bien sûr. Une allure suspecte, roulait trop lentement. Ouais. À l'heure où j'écris, il me reste des cicatrices au dos, au cou, au tibia, à la main, à la cuisse. Puis l'inspection générale des services, l'IGS. Prends mon témoignage, la justice fera le reste. A-t-on le droit de falsifier quand on est assermenté et ensuite demander que l'uniforme soit respecté? Ils portent des casquettes comme les mecs ils arrêtent. Mettent des coups de pression comme les mecs ils arrêtent. Montés sont armés comme les mecs ils arrêtent. Ils volent au-dessus des lois comme les mecs ils arrêtent. Les témoins de la scène étaient outrés. Mais des histoires similaires, j'en ai des dizaines à te raconter. Du fond du cœur, peace. Aux orphelins de la police, ainsi qu'à ceux qui entendront ce chant anecdotique. Je ne donne pas tous les détails, je souhaite la concorde. M6 Solar, un beat, une voix, des cordes. Un soupir bien souvent d'un souvenir.
Session info concert, un festival entre rituels, folklore et avant-garde. C'est Rage Sacré, festival itinérant qui passe par Lorient, par Paris à Petit-Bain et puis par Rennes à l'Antipode jeudi soir avec Duo Root, Milkweed et Pedal Dash. Et puis on terminera l'émission et la session info concert tout à l'heure avec un peu de swing pour évoquer ce festival Let's Swing to Spring proposé par Open Swing du côté eh bien, du 360 et puis aussi de la salle de la cité avec samedi le groupe Stomp Stomp. Mais on commence donc avec ce festival Rage Sacré qui s'arrête donc jeudi soir à l'Antipode avec des rencontres entre rituels anciens, folklore, un poil chamanique et avant-gardes indomptables. Vous retrouverez un groupe que l'on a découvert au Transmusical, le duo estonien formé par Anne-Lisette Reban et Katharina Kivi, c'est duo Root avec deux U. Vous les retrouvez dans une seconde avec un morceau en duo avec Pouloup, qui là aussi jouait au Transmusical, il me semble, il y a quelques années. Voici donc pour découvrir ce duo-là, si vous ne le connaissez pas, le morceau Vastla Laul. Et puis juste après, vous entendrez alors une aventure irlandaise des plus excitantes si vous aimez le folk nouvelle forme de Lancôme ou de Brigitte Rainbow que vous avez vu récemment au festival Autre Mesure. Mais bon, c'est une autre histoire, on en reparle tout à l'heure, mais pour l'instant, voici le duo Root et Pouloup.
Lähen, lähen, liugu, laskema ja vanast seatud vastlapäeva kõige suurem sõidupäeva takka tuulen ettele. Laskema ja talupojad regedega mina vaine kelguga takka tuulen ettele. Lähen liugu laskema ja liina liugu pika kiudu liinad liulaski jälle takka tuulen ettele. Lähen liugu laskema ja takkud takka lükka jälle ebe. Vastapäeva kõige suurem sõidupäeva takka tuulen ettele. Lähen liugu laskema ja talupojad regedega mina vaine kelguga takka tuulen ettele. Lähen liugu laskema ja
À l'instant, vous avez entendu un groupe qui vient de Cork, en Irlande, c'est Pedal Dash, un groupe qui mêle la noise, la dream pop et puis des textures un peu plus ancestrales, on dira, guitare plaintive, nappe de synthé, basse grondante. Vous retrouverez ce même groupe, Pedal Dash, en concert jeudi soir à l'Antipode, dans le cadre du Festival Arage Sacré, festival itinérant entre Lorient, Rennes et Paris, en partenariat avec Petit Bain, la salle parisienne. On écoutait auparavant Duo Route, là on était en Estonie, et bien on va poursuivre avec des choses encore plus étonnantes. Un énigmatique duo folk londonien, Milkweed, on ne retrouve qu'un morceau, qu'une pièce, une vidéo d'ailleurs, parce qu'il faut voir l'image, il n'y a pas que le son, grâce à Milkweed, un mélange entre musique folk très ancienne, et puis également on retrouve un petit peu de spoken word, de found sounds, de sons trouvés comme ça, de freak folk. Bon, tout ça est très mystérieux, mais franchement, je vous conseille d'aller la voir, la vidéo entière qui accompagne ce morceau Folklore 1979. Je ne vous en propose qu'un extrait, parce que ça dure 11 minutes en tout, avec pas mal d'impression que c'est une sorte d'équivalent musical folk à ce qu'était au cinéma d'horreur The Blair Witch Project. Ouais, ouais, carrément. Écoutez donc ça.
My father Years ago, Equus disappeared here in North America at the end of the Ice Age, along with mammoths, mastodons, camels, and other large herbivores. And one of the great mysteries is why here in North America, a group of animals like the horse that was so successful for so many millions of years disappeared, and yet it was able to survive in Eurasia.
American Mustangs only descend indirectly from their original American ancestors. And this was through the horses which migrated to Asia and onto Europe 2 million years ago, only to return to the North American continent with the help of man 500 years ago.
Mille quid à retrouver ce jeudi à l'Antipode dans le cadre du festival Rage Sacré. Toutes les infos sur antipode-rennes.fr. On termine les infos-concerts avec cet événement proposé ce week-end, vendredi et samedi par l'association Hop and Swing. C'est le festival Let's Swing to Spring. Un spectacle nommé Fréquence, joué par le Potential Jazz Crew à la Maison des Associations dans l'auditorium du 360 vendredi soir, et puis un concert swing avec le groupe nantais Stomp Stomp. Voilà de quoi revenir un peu plus en arrière encore. Retrouvez sur la page de l'émission Le Grand Tout les liens vers la billetterie sur Hello Asso. Vous avez un tout petit tarif de 25€ pour les deux événements, soirée spectacle du vendredi et soirée concert du samedi. On termine donc avec Stomp Stomp et ce Yacht Club Swing. On se retrouve de notre côté mercredi à 17h pour Le Grand Tout. On parlera avec Valérie Auvergne de la Maison du Livre de Bécherel de cette nouvelle édition de la Fête du Livre qui aura lieu pendant le week-end de Pâques autour du vrai, du faux, du fake et du real. Vous verrez tout ça. On s'en reparle. À bientôt pour de nouvelles aventures. Retrouvez playlist et réécoute du Grand Tout sur canalb.fr. Ciao.